Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre en ce dimanche après-midi sous ce Magic Mirror, le Deluxe, pour une rencontre qui est l'un des événements de cette édition des Imaginales, puisque nous sommes extrêmement honorés et heureux d'accueillir Stephen Erickson pour évoquer la publication, enfin on pourrait dire, puisque même s'il y avait une première tentative un peu avortée de publier en français ce cycle malaséen, ça y est, c'est une jeune maison d'édition, les éditions Léa, qui s'y sont collées. C'est une vraie découverte, ce qui sera en principe, normalement, si tout va bien, une décalogie, donc 10 volumes. Le premier, vous le voyez, il est quand même déjà assez conséquent. C'est lui dont nous allons vous parler parce que si vous ne connaissez pas encore cet univers, on va essayer de vous y initier à travers l'auteur lui-même, que je remercie vraiment de sa présence parmi nous. La première question, elle va être assez simple. Enfin ça, vous allez peut-être me dire que ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous pouvez nous présenter l'Empire malaséen ? C'est toujours les questions les plus simples qui sont toujours qui amènent les réponses les plus difficiles.
If I were to just approach it as if I were an archaeologist to tell you about a civilization, does that work? Does that work? Do you think?
Si je devais approcher la question en tant qu'archéologue, je vous dirais que c'est l'histoire d'une civilisation.
So we can compare it to the late Roman Empire. Iron Age, and the late Roman Empire in the sense of the maximum expansion of the empire then beginning to contract.
Oui, si on devait du coup comparer, ce serait l'Empire romain, l'âge de fer, l'Empire romain, pourquoi ? Parce que à travers une expansion maximum avant la contraction.
Civilizations have a kind of a rise and then a fall. Sometimes the fall is quick, sometimes it's general. If you think of the Roman times, Roman Empire, I guess in the West you could call it a fast collapse, and in the East it took a lot longer. But this is the case in the Malazan world where we've sort of reached the point of the last group of emperors holding on to the gains of previous rulers of the country.
Oui, donc si on regarde dans l'histoire, c'est vrai que les civilisations ont toujours une période d'expansion avant de faire face à une période de chute. Ça peut être assez rapide comme ça peut être assez lent. Si on reprend l'exemple de l'Empire romain, on peut dire que dans l'Ouest, ça a été une chute assez rapide, tandis que dans l'Est, ça a été un petit peu plus long. Dans le cas de l'Empire malaséen, on arrive au moment où c'est le dernier groupe d'empereurs qui s'accroche aux gains des générations d'empereurs précédents.
Alors justement, on est à une période charnière lorsque s'ouvre le cycle, on a eu une succession dont on comprend qu'elle a été un peu délicate à la tête de l'Empire malaséen, et en même temps, on a une campagne militaire qui, dont les objectifs restent quand même au départ assez flous, même si on comprend bien que c'est aussi une politique de conquête territoriale, mais on sent bien qu'il y a peut-être un petit peu plus que ça derrière.
I think one of the things that the Malazan world was intended to explore was that as much as history records various events, the rise and fall of nations and of cultures, there's always more than one side to that story. And the Malazan Book of the Fallen seeks to shed light on as many aspects of that historical story as possible. And so you don't have, in a sense, good guys or bad guys. You simply have events and people on all sides of those events.
Oui, l'une des choses que le monde malaisien explore, en fait, si vous voulez, l'histoire rapporte de nombreux événements, voilà, la montée et la chute d'empires. Et au final, il y a toujours plus qu'une seule vision des choses. Et ce que je voulais explorer à travers le monde malaisien, c'était de pouvoir apporter, mettre un coup de projecteur sur autant d'aspects que possible. Je voulais pas, j'étais pas très intéressé par le fait d'avoir les bons contre les méchants. Voilà, il y a toujours plusieurs aspects dans l'histoire, toujours plusieurs points de vue. C'est ça qui m'intéresse.
Alors on parle de l'Empire, on parle de l'Empire malaisien, mais finalement l'action se situe plutôt sur un territoire qui s'appelle Jena Bakis, qui est finalement la cible des ambitions de l'Empire malaisien. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi attirant à Jena Bakis pour que l'Empire se lance dans une campagne comme cela ?
Generally, empires expand for a number of reasons. The primary one, of course, is economic. So that it's kind of a biofeedback system. So that you have to maintain large armies to maintain control. And then you have to reward those armies. And so the armies continue to expand as far as they physically can, in order to be paid for expanding. So it is a kind of a system that's, it sounds crazy on the surface, but it's certainly what most empires have done. And there are other reasons for expanding of an empire, and I'll get to those in a sec.
Oui, généralement, les empires s'étendent pour plusieurs raisons, voilà, et l'une d'entre elles, c'est la raison économique, hein, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, en fait, hein, c'est-à-dire que on doit maintenir et entretenir les armées, et puis ensuite, derrière, on doit les récompenser, donc, et donc les armées continuent d'étendre l'influence de l'Empire pour pouvoir être payé. Et en fait, ça paraît un petit peu fou quand on le dit comme ça, mais en fait, c'est ce que la plupart des empires ont fait, et il y a d'autres raisons, et du coup, je vais y revenir tout de suite.
Another reason for why empires often expand is it sounds counterintuitive, but it's out of fear. And the fear is of whatever lies beyond the borders of that empire. In the case of this book, the target, which is the city of Darujistan in Genabakis, is kind of like Constantinople. It is the jewel of the continent. And of course, there is a desire for the wealth that comes with embracing that city within the empire.
Une autre raison qui peut sembler un petit peu contre-intuitive, hein, c'est la peur. La peur de ce qu'il y a au-delà des frontières de l'Empire. Et donc dans ce livre, en particulier, alors ça se déroule bien sûr sur le continent de Jena Bakis, mais il y a une ville en particulier qui attire l'Empire malaisien, et cette ville c'est Darujistan. Darujistan qui est donc en fait le joyau du continent, et l'Empire est très intéressé par les richesses qui viennent avec le contrôle de cette cité, en fait.
Et j'ajoute, parce que tu ne l'as pas dit, mais que c'est, le modèle, c'est Constantinople. Hein. C'est ça ? Mm-hmm. Non, non ? C'était pas ça ?
Sorry ? Oh, I see. Okay.
Non, mais c'est un petit détail important, quoi. Non, mais il n'y a pas de souci. voilà, c'était aussi pour planter un petit peu le décor, parce que j'imagine que vous n'avez peut-être pas encore tous eu le temps de vous plonger dans ce premier volet, en tout cas si vous attendiez une version française. Et c'était, voilà, les petits points, peut-être parfois un peu rébarbatifs, mais voilà, on est dans un univers de fantasy, il faut quand même qu'on vous plante un peu le décor. Et puis, à l'intérieur de ce décor, évidemment, vont évoluer tout un tas de personnages que l'on va suivre. Pour certains, j'imagine, sur plusieurs tomes de cette saga qui appartiennent aux différentes parties de ces univers que l'on vient d'évoquer, qui sont impliqués à la fois dans la guerre pour certains et puis pour d'autres au contraire qui vivent simplement, c'est le cas des habitants de Daoudjistan, et il va falloir voir comment tout cela va s'agencer. Je dois dire que c'est un premier tome dont il est assez difficile de parler. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés d'emblée. On va découvrir beaucoup de choses petit à petit, y compris sur les personnages principaux que l'on suit, qui sont souvent, pour des raisons diverses et variées, à double facette au minimum. On entre de plein pied vraiment dans l'action. C'était une volonté de votre part, justement, de ne pas donner trop de clés au départ au lecteur.
Good question. I think the approach I wanted was that you're going to be able to slowly piece it together. The style I use is called third person limited omniscient. And so that approach for a point of view limits the description of the environment around a character to what that character can see, taste, feel, and think, and believe. So in each instance that we go from one character to another, I'm kind of filling in pieces of the puzzles. But at the same time, because I'm so close to the point of view of these characters, they are all ultimately unreliable. You like that, did you?
Yeah. Ouais, c'est une bonne question. Je voulais effectivement. Mon approche, c'était que je voulais que le lecteur rassemble les pièces du puzzle au fur et à mesure. Et j'utilise un style d'écriture qui est en fait la troisième personne limitée, le point de vue de la troisième personne limitée. C'est-à-dire qu'en fait, je limite la description de l'environnement, le goût, les sentiments, les croyances, au point de vue strict du personnage. Et donc, en passant d'un personnage à un autre, au fur et à mesure, on obtient justement, on assemble les pièces du puzzle. Et en même temps, comme c'est moi qui écris tous les points de vue et tous les personnages, il n'y en a aucun qu'on peut vraiment croire, en fait.
If you think about it, each person has a very limited world view. And sometimes it can be easy to have a single character representative of an entire part of your storyline or your region or your geography, and then have the writer try to convince you that that particular worldview is actually consistent throughout that setting. A good example in the real world would be somebody living in the ghetto and their worldview versus somebody who lives in a penthouse suite in the richest and wealthiest part of a city. Those two worldviews will be fundamentally different, but the setting will actually be the same. And so the challenge for the reader is to listen or to get those points of view from both sides and then try to find the truth somewhere in the middle.
Oui, je pense si vous y réfléchissez un peu, en fait chaque personne a une vision du monde qui est assez limitée. C'est assez facile en fait d'imaginer avoir un personnage qui raconte tout du coup à travers sa perception et pour le lecteur de penser que voilà, c'est parfaitement juste. Si vous prenez comme exemple dans la réalité quelqu'un qui vit dans un ghetto ou quelqu'un qui vit dans un manoir, on va avoir deux visions du monde qui vont être différentes, mais malgré tout le décor sera le même. Donc en fait le défi pour le lecteur, ça va consister à écouter ces différents points de vue et trouver la vérité à mi-chemin de ces deux personnages.
I tend to view the relationship between the reader and the author is that the author is basically offering out a hand to take the reader in hand. And in this instance, I'm actually asking a lot of the reader because I want them to engage in the realization of the Malazan world. And I promise that I will give you everything you need, but you do have some work to do.
Oui, donc moi j'ai tendance à voir la relation entre auteur et lecteur. Pour moi, en fait, l'auteur, il tend la main au lecteur et du coup, il lui présente son monde. Et moi, je demande beaucoup à mon lecteur parce que j'ai envie que, quelque part, il s'engage dans la réalisation de ce monde. Et du coup, je lui fais la promesse. Je lui dis, voilà, je te donne tout ce que tu as besoin pour comprendre l'univers, mais en même temps, il va falloir que tu bosses un peu.
Et that is actually my promise to, or actually, how I would describe it. My view of writing fiction and writing stories for an audience is we have to be in this together. And so that is the invitation that I offer. And that's why I don't throw huge info dumps to sort of get you grounded. You will be as grounded as the characters you meet. And if you know anything about the real world, I'm sure you all do, none of us are that grounded. So that's kind of what I'm trying to explore in the Malazan world. And that will stop.
Secure? Stable? What's grounded? Description. Anybody got a suggestion for grounded? No? Grounded in the sense of electrical engineering, for example, when you use a wire to ground to make sure nobody gets electrocuted, right?
Donc ma vision de l'écriture, en fait, c'est voilà. Le lecteur et moi, on doit être dans le même bateau, en fait. C'est pour ça que je ne vais pas donner beaucoup d'informations, enfin, je ne vais pas donner toutes les informations tout de suite pour que le lecteur ne soit pas enraciné dans le décor. Merci. Donc voilà, c'est pour que le lecteur ne soit pas forcément enraciné dans le décor, mais que voilà, on découvre quelque part, on participe à la découverte ensemble.
Alors c'est vraiment exactement ça, on avance petit à petit, on est surpris par l'évolution des personnages parce que ce ne sont pas des évolutions qui sont liées simplement à leur caractère, à une quête particulière, mais elles sont souvent liées aux événements et à ce qui leur arrive très concrètement. Vous verrez d'ailleurs que entre la quatrième de couverture par exemple et ce qui se déroule dans ce premier tome, il y a déjà des surprises qui vont apparaître par rapport au destin de certains personnages. Et il se trouve que c'est un univers, et on va continuer à le découvrir à travers cela, où la magie tient une place assez importante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette volonté que vous aviez d'instiller de la magie dans cet univers?
There were a lot of, it's fantasy. So if I was going to do an historical fiction, then I might avoid magic. Not necessarily, but I might. But of course, for fantasy, my interpretation of the purpose of magic within fantasy is that it's a metaphor for the sense of wonder. And so when in the Malazan world, magic is not specifically explained in a mechanistic sense. It is simply, it remains a mystery. And so on a narrative, functional craft level of things, that is the function of magic in fantasy, is to evoke sense of wonder. I'll stop there for a sec and then we can go on.
Donc dans la voilà, bah c'est de la fantaisie, hein, donc voilà, c'est vrai que voilà, si j'écrivais de la fiction historique, j'aurais probablement évité l'utilisation de la magie, et encore, c'est pas sûr, mais mon interprétation, c'est que la magie, en fait, c'est une métaphore du sens de l'émerveillement. Dans le monde malaisien, la magie, en fait, elle est jamais vraiment expliquée en tant que telle sur le plan mécanique, on sait pas exactement comment ça fonctionne. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, ça évoque le sens de l'émerveillement.
In the other respect, the use of magic and the creation of magic and the magic system that was applied to the Malazan world had very specific functions and rules, but we kept them kind of hidden. And I say we because it's a co-created world with Ian C.S. Lamont, who also writes novels in the world. And I've mentioned this before, but we use magic to address the question of, specifically, I think, hierarchies of power and the artificial externalization, internalization, exclusive, inclusive kind of decision-making process for those hierarchies of power that exist in our world. So they may be based on religion, they may be based on gender, which is fairly common. In fact, it's almost universal here on Earth. For the last 5,000 years, it's been pretty much patriarchal. But if magic is actually available to everyone, which was one of the rules we had, it will change fundamentally all of those cultures and civilizations, because you cannot have sexism, you cannot have a gender-based hierarchy of power if power is accessible to everyone.
Oui, et sur d'autres plans, du coup, la magie dans le monde malaisien, en fait, on lui a créé des fonctions très spécifiques et des rôles aussi, des règles très spécifiques, mais on a décidé de les cacher, en fait. Ça, c'est une décision, du coup, pourquoi je dis « on » parce que voilà, c'est un monde qui est co-créé avec mon ami Ian C. Esselmont. Et donc, j'en ai parlé auparavant, mais la magie, en fait, c'est une manière de remettre en question les hiérarchies de pouvoir. Voilà, l'aspect inclusif, exclusif dans le processus des décisions qui existent dans notre monde. En fait, quand on y pense, c'est quelque chose qui est assez universel depuis 5000 années. Hein, voilà, il y a aussi le système patriarcal. Et moi, ce que je voulais justement, c'est qu'en fonction des contrées, en fonction des pays, je voulais que ça change fondamentalement, en fait. Et c'est vrai qu'au sujet de la magie en particulier, et donc du système patriarcal, quand on y pense, on ne peut pas avoir de hiérarchie des sexes si la magie est accessible à tous.
How many of you were attended the panel regarding violence and fantasy? Nobody? Okay, some did. All right, well, you may not have noticed, but I was absolutely incensed by the end of that session. And the reason being, we ran out of time. And the last person to speak, there was the subject matter was related to violence against women. And I don't remember the man's name, the other writer, but he was essentially describing in his fiction that oppression and suppression of various individuals kind of crossed all of those things, so that you had suppression against men, against women, whatever, children, various religions, and all the rest. And I didn't get a chance to get the microphone back, and I really wish I had. But I'll stop there so that you can catch up.
It's your panel here. Yeah. You say what you want.
Good, I intend to.
Donc j'étais, je sais pas, oui, donc pour ceux qui ont assisté hier à la conférence sur l'oppression et les violences, vous avez peut-être remarqué, mais en fait j'étais assez énervé parce que la dernière personne qui a pris le micro, en fait, donc après on avait plus le temps après la réponse de cette personne qui était Pierre Bordage, et donc le sujet, c'était la violence contre les femmes. Et donc, il disait que voilà, dans sa fiction à lui, voilà, il y avait l'oppression de différentes formes, en particulier envers les femmes, etc., à travers la religion. Et en fait, j'aurais vraiment, vraiment voulu pouvoir récupérer le micro juste après lui.
So if I'd had the time, I would have grabbed the microphone back and I would have said no, absolutely not. And what I would have said was, violence against women is, well, first of all, I would have said what he is using as his statement is something called the fallacy of equivalence. And what that means is he is basically putting the same weight upon all of these forms of oppression, regardless of its gender or religion or whatever. And I would have said, you cannot do that, because violence against women is the one form of oppression that actually is virtually universal on Earth, and it crosses borders and it crosses cultures, and it is at least 5,000 years old, so you cannot make it the equivalent of any other form of oppression. So that's what I would have said. Okay.
Et donc si j'avais eu la chance de pouvoir récupérer le micro après, je lui aurais dit non, absolument pas. La violence, donc en fait, ce qu'il utilisait, lui, c'était le principe d'équivalence, c'est-à-dire que selon lui, en fait, les différentes formes de violence, que ce soit la violence envers les femmes, il le mettait sur un pied d'égalité avec les autres formes de violence, en fait. Pour lui, ça avait le même poids. Et donc, moi, ce que j'aurais bien voulu pouvoir lui dire, c'était que c'est absolument impossible de mettre au même rang la violence faite contre les femmes, parce que c'est quelque chose qui en fait est universel, qu'on voit au-delà des frontières, dans tous les pays, et ça fait 5000 ans que ça dure.
The fantasy genre is quite unique in that we actually have the freedom as creators of fantasy works to not carry various assumptions across into that world. And in fact, we can actually create a fantasy setting that even indirectly is speaking in answer to the injustices of this world.
Grâce à la fantaisie, on a en tant que créateur, on a une liberté qui est assez unique et qui consiste à ne pas prendre des principes de notre monde pour les transposer dans le monde fictif qu'on va créer. Et justement, ça vaut pour les injustices. On peut tout à fait créer un monde dans lequel il n'y a pas ces formes d'injustice et néanmoins les critiquer à travers ça.
And far too often within fantasy, the assumption of patriarchy and violence against women is simply carried across. It's carried across as if it were a natural law that's going to appear in every single secondary and tertiary world that our imaginations can create. And that's what I take exception to.
Et beaucoup trop souvent dans la fantaisie, le patriarcat et la violence envers les femmes est ramené justement dans la création de ces mondes fictifs comme si c'était naturel. Et c'est exactement pour ça que moi, en fait, j'ai décidé de prendre le contre-pied de ce genre de procédé.
So as you can see, that was a few days ago and I'm still pissed off.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà quelques jours et pourtant je suis toujours assez furax.
Je vais donc faire super attention en posant la prochaine question pour éviter d'énerver un peu plus Stephen Erickson. Je marche sur des œufs parce que j'essaye de pas trop en raconter non plus et pas trop vous dévoiler certains aspects de ce premier roman parce qu'il y a évidemment beaucoup de surprises. Il faut quand même qu'on évoque le fait que votre univers, il est à plusieurs dimensions. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là? Est-ce qu'il vous convient?
Planes of existence.
Comme sur des plans d'existence?
Oui, voilà.
Is that what you mean?
Yeah. Yeah. On a plusieurs strates, finalement.
Do you want me to comment on that?
Yeah.
Yes. Okay. It's probably presumptuous for us all to assume that what we are able to perceive on the basis of our physical senses is all that there is. And so the fantasy setting can actually, again, you take a metaphor and you make it real. And so, yes, there are multiple planes of existence, absolutely. But that's not unique to this to the fantasy world and the Malazan world. It's very, very present among a lot of faiths and beliefs here in this world as well.
Tout à fait. Moi, je pense que c'est assez présomptueux de s'imaginer que ce qu'on peut percevoir avec nos sens physiques, en fait, c'est tout ce qui existe. En fait, c'est la métaphore, c'est que le réel n'est pas. Oui, dans la fantaisie, en fait, on peut transposer la métaphore on peut transposer cette métaphore en fait à travers la fantaisie du coup, c'est pas quelque chose qui est spécifique au monde malaséen. En fait, on le retrouve dans plusieurs autres créations, et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui existe dans plusieurs croyances à travers le monde.
Ce qu'on découvre petit à petit, c'est que finalement, les enjeux qui semblaient assez clairs au départ avec cet empire malaséen qui cherche à conquérir, à s'étendre, deviennent nettement plus complexes puisqu'il y a des éléments dans les différentes strates de cet univers qui interviennent, entrent en conflit, s'opposent ou au contraire parfois s'allient. Bref, il y a des volontés diverses et variées dont tout le monde n'est pas forcément conscient et qui viennent contrecarrer le destin des différents personnages.
I guess part of what the Malaz and the first novel is it. The first novel is considered, in my mind, as a kind of primer. It's kind of teaching the reader how to sort of engage with the Malazan world. And it is a world where gods are active. But it is also a world where the notion of worship actually extends in both directions in the sense of efficacy, if that makes sense.
Oui, tout à fait. Le premier roman, donc Les Jardins de la Lune, je considère que c'est un peu une manière d'enseigner le monde malaséen au lecteur. Et c'est un monde dans lequel les dieux sont actifs et d'ailleurs dans lequel la notion de prière, le fait de vénérer un dieu, ça va dans les deux sens en fait. La vénération peut avoir des conséquences à la fois pour les dieux comme pour ceux qui vénèrent.
So in other words, the worshipper has power over their god, just as their god has power over their worshipper. And once that is acknowledged, there is an inherent responsibility on both sides. And quite often, being human nature being what it is, we do our best to avoid responsibility.
Oui, en fait, en d'autres mots, il y a cette ambivalence du pouvoir entre le fidèle et le Dieu, et la responsabilité, en fait, elle va dans les deux sens. Et l'humanité étant ce qu'elle est, en fait, on va faire, en général, tout ce qu'on peut pour éviter toute responsabilité, justement.
Les humains, dans cet univers-là, deviennent un peu des jouets, finalement, de puissance supérieure. En tout cas, ils sont soumis à des situations dont ils n'ont finalement pas les clés et ils n'ont pas les rênes en main, finalement. Il y a une vraie volonté de les mettre dans une instabilité.
Well, only for the purposes of evoking, I guess, realism, authenticity. How many of us in this room feel completely in control of the events that impact our lives? It's not it is a rhetorical question.
Oui, je pense que oui, mais uniquement pour des pour évoquer l'authenticité en fait. Je veux dire, combien de personnes ici dans la salle pensent qu'ils contrôlent tous les aspects de leur vie? C'est une question rhétorique, hein, bien sûr.
I guess what I keep coming back to is the notion that fantasy is a genre that you can take a metaphor and make it real. So what each of us experiences in our own lives will be reflected in the fantasy work in some fashion or another. But in the fantasy setting or in the Malazan setting, that unpredictable outside agency may be personified as a god, but the god is just a stand-in for nature and acts of God, I guess, if you want to call it that way, in this world. So random events that occur to each of us. And then it's elaborated on in the sense of these gods are quite Homeric, so there's a fickle element to them. And they are themselves flawed and unpredictable, just like the rest of us. That's kind of one of the messages that's coming across, I think, in the series.
Oui, moi je reviens toujours à la notion de prendre une métaphore et d'en faire quelque chose de réel dans un monde de fantaisie. Donc en fait, ça revient à prendre des événements de nos vies et de les transposer dans un monde de fantaisie. Donc dans le monde malaséen, par exemple, on peut avoir effectivement les dieux qui font des choses inattendues, mais on pourrait tout aussi bien parler de nature. Donc voilà, c'est des événements qui sont aléatoires. Et les dieux en eux-mêmes, ils sont assez homériques, en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas parfaits, ils ont des défauts, de la même manière que nous. Et je pense que c'est le message que j'essaye de véhiculer à travers l'entièreté de la série.
And this is how, no matter how inventive or strange the struggles and magical the struggles of particular characters, the reader is still able to emotionally connect with them. I mean, how many of us here have climbed a mountain and thrown a ring into a volcano, right? But we may have had our version of climbing the mountain and throwing the ring into the volcano. And that's how we emotionally connect with these stories.
Oui, peu importe que les luttes soient inventives ou magiques ou etc. Dans le fond, le but c'est que le lecteur puisse s'identifier émotionnellement à ces luttes. Enfin, je veux dire, combien d'entre nous ici dans cette salle sont montés en haut d'un volcan pour y jeter un anneau? Voilà, mais on a tous notre propre version de cet événement. Et c'est de cette manière que le lecteur peut se connecter à ce qui est dit dans les livres.
La fantasy, c'est un genre qui repose beaucoup sur un archétype qui est celui du héros. Alors moi, en lisant ce premier tome, j'ai eu l'impression que vous vous affranchissiez de cela et que finalement, vous cassiez l'image du héros.
Probably, but I think I broke the image of the hero for the sole purpose of rebuilding the image of the hero in the rest of the series.
Oui, probablement, mais je pense que je l'ai fait dans le seul but de reconstruire l'image du héros dans le reste de la série.
While it would have been easy to have written through the hero's journey in the Joseph Campbell sense, for as many characters as I care to explore in the novels, I actually did not want to do that. I wanted each character to perhaps pick up a fragment of the hero's journey. This sounds very, very presumptuous on my part and very ambitious, but each one was going to sort of pick up the burden for a very short period of time, and some would succeed in carrying that burden the distance for the story, others would fail and fall to the sides. And the reason why I was doing this was, and bear in mind that when I sold the first book, I had all 10 in mind. So I knew the arc I was going to explore. And the idea was, If anyone was going to make the hero's journey in this series, it was going to be the reader.
Thanks. Ça aurait été assez facile de reproduire la quête, le chemin du héros au sens strict de Joseph Campbell. J'aurais pu prendre autant de personnages que je voulais et leur faire ce fameux chemin du héros, mais je voulais pas ça en fait. Je voulais que chacun de mes héros prenne une partie du voyage du héros pour lui. Et donc certains alors je sais que c'est très présomptueux hein, de ma part de dire ça, mais voilà je voulais découper ce voyage du héros et le répartir entre plusieurs personnages, et certains réussiraient, d'autres échoueraient, et la raison en fait pour laquelle j'ai pensé ça, c'est que quand j'ai publié le premier livre, Les Jardins de la Lune, j'avais déjà les 10 livres en tête. En fait, je savais où je voulais aller avec les 10 livres, et je voulais qu'en fait s'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le voyage du héros, je voulais que ce soit le lecteur.
Ganoès Paran, qui est un jeune officier malaséen, qui est un garçon qu'on sent à la fois ambitieux, mais aussi idéaliste, un peu naïf même. Enfin, c'est un jeune officier, quoi. Il n'a pas encore franchement l'épreuve du feu. Il a un peu le profil, justement, quand on le rencontre, pour devenir un peu ce héros sans peur et sans reproche. Et puis vous allez lui apprendre la vie.
Yeah, but then I kill him. Mind you, he comes back. But even still,
c'est radical.
Yeah. I guess, yes, very much. Gardens of the Moon, more than any of the other books in the series, sets up the standard tropes of fantasy, and then subverts them, or upends them. And it was quite deliberate on my part to set these up, because I wanted to dismantle all of them. And that's why the book is a primer for the rest of the series, because it's basically telling you, the reader, do not expect those tropes to arise in traditional fashion anywhere in this series. And I think I can say with some confidence that they don't.
Oui, tout à fait, effectivement, mais après je le tue, Ganoès Paran. Enfin, il revient hein, plus tard, mais voilà. Donc je pense que dans Les Jardins de la Lune, plus que dans tous les autres livres, en fait, je prends tous les tropes standards et je les change, en fait. Je les modifie, je les démonte un par un. Et c'est pour ça aussi que je pense que voilà, Les Jardins de la Lune, c'est un prérequis pour le reste de la série. C'est vraiment un préambule, parce que ça dit au lecteur, ne t'attends pas à ce que ces tropes surgissent. Et je pense que je peux dire aujourd'hui avec une certaine confiance qu'ils ne le font pas.
Vous avez évoqué tout à l'heure un célèbre anneau, celui du Seigneur des Anneaux, justement. Dans ce premier volet, il y a un objet très important. C'est une pièce. Là aussi, c'est un élément qu'on rencontre assez rapidement dans le livre, et dont on mesure petit à petit, alors, l'importance relative, mais en tout cas, l'influence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce ?
I guess the coin was simply and is simply first of all, it's created by the gods of chance, and the gods of chance are twins, male and a female, and one pulls, which means good luck, and one pushes, which means bad luck. And so the gods create this coin to basically cause as much trouble as they possibly can, and introduce it into the mortal realm. And it's picked up by a fairly insignificant character who then has in his hands the ability to topple gods, even though he doesn't know it. And that's kind of one of the things I wanted to explore in this book, is particularly, is that the ability to change the world can exist in the most minor character, not just kings, queens, gods.
En fait, la pièce, elle a été créée par les dieux de la chance. En fait, ce sont des jumeaux, un homme et une femme. Et donc, ces dieux, ils tirent ou ils poussent. Si ils tirent, ça veut dire que c'est de la chance, c'est de la bonne chance. Et donc, s'ils poussent, et ben là, c'est plutôt l'autre côté. Voilà, c'est en gros, pas de chance. Donc, le but pour eux, en créant cette pièce, c'était de provoquer le plus de troubles possible dans le monde, le plus de problèmes possible. Donc, ils ont créé cette pièce, ils l'ont introduite dans le monde malaisien, et elle est ramassée par un personnage qui est relativement insignifiant. Et en fait, il a le pouvoir de renverser les dieux, mais en fait, il le sait même pas. Et en fait, c'est ce que je voulais explorer à travers l'introduction de cette pièce. C'était la possibilité. Pour changer le monde, la possibilité de changer le monde pour quelqu'un qui est justement relativement insignifiant et pas seulement des personnages de pouvoir comme des rois, des reines, etc.
C'est même plus qu'un personnage insignifiant, c'est un voleur, Kronkus. Donc c'est aussi quelqu'un qui cherche un peu sa voie, mais ils sont un peu tous dans cet état d'esprit, et qui, effectivement, ne peine un peu à trouver sa place, un peu comme tous les autres personnages autour de lui. Il y a tout un jeu, et c'est pas pour rien si j'évoquais cette pièce, sur la dualité dans ce premier roman, comme si chaque personnage balançait justement entre les deux revers d'une même pièce.
You're absolutely right. It's there's a metafictional kind of element to all of this, and that the coin represents, first of all, me setting, you could do it sort of heads being the tropes of fantasy, tails being right undermining the tropes of fantasy, and as the story goes on, I invoke the spinning of the coin over and over again. So structurally, it has a metafictional, a postmodern kind of approach to what the novel's actually about. But I try to keep that as buried beneath the surface as possible. And so, yes, all the way through, characters are sort of experiencing, I guess, what you could call the Janus syndrome. Yep. And they do it thematically. They do it in terms of their allegiances, alliances. Their belief systems, in fact, will flip throughout the series, throughout that novel, and that is just basically where I wanted things to start. So that spinning coin becomes very, very important, as even the driving or the motivating in my head. If I were to think about it, I had that spinning coin. I could hear it through the writing of that 4.5 months of writing that first draft of this novel.
Oui, en fait, vous avez absolument raison. La pièce, elle a une fonction métafictionnelle. Pour moi, le côté face, c'était donc les tropes de la fantasy. Et le côté pile, c'était justement le fait de les déconstruire et de un petit peu les casser. Donc, au fur et à mesure que l'histoire avance, on a toujours cette pièce qui tourne, c'est un peu une approche postmoderne dans l'idée. Mais j'ai essayé de garder ça un petit peu sous la surface autant que possible. Et en fait, même pour les personnages, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre et même dans la série, il y a un peu ce même système hein, de la pièce qui tourne. Voilà, il y a les alliances, les systèmes de croyances qui vont aussi changer, et en fait c'est un peu là où je voulais que les choses commencent. Et dans ma tête, en fait, même dans ma tête, j'entendais cette pièce tourner pendant que j'écrivais pendant 4 mois et demi le premier jet de des Jardins de la Lune.
Thanks for that. Over all the years that I've had people question and interview me on Gardens of the Moon, nobody else has caught that. Nobody else has caught it. And yeah, it's brilliant. And the great thing for me is The spinning coin also, and this is why I call it metafictional in a much broader sense, it was my first ambitious stab at fantasy. And I knew I was breaking rule after rule after rule. And so I was gambling on the series. And that's how the coin ended up representing my own sense of taking the risk for what I wanted to do on the Malazan series. So that's why I say the coin was spinning all the way through. And it was spinning in the 8 years it took to find a publisher. So thank you.
Eh bien, merci pour ça, parce qu'en fait, depuis toutes ces années où j'ai fait des interviews, personne ne m'avait évoqué cette pièce, enfin cet aspect de la pièce. Donc, merci pour ça. Ce que je voulais faire, en fait, cette pièce, ça représentait pour moi. Donc, si on reprend un petit peu l'aspect métafiction, pour moi, en fait, Les Jardins de la Lune, c'était mon premier départ ambitieux vers la fantasy. Et en fait, en jetant cette pièce, ben, je faisais un pari à travers la série parce que, justement, je savais que je prenais des risques en remettant en cause ces fameux tropes traditionnels. Et en fait, dans un certain sens, cette pièce, c'est ma propre vision de comment je voulais faire les choses. Et cette pièce, elle a continué de tourner pendant les 8 années que ça m'a pris pour trouver un éditeur pour publier Les Jardins de la Lune.
C'est peut-être un horrible spoiler, mais... The final scene of this novel, the character with the coin flips it, and it flips it into the river. And in other words, in a sense, at that point I'd finished the book, and everything else was in the lap of the gods.
Et c'est peut-être un spoiler horrible que je vous fais là, mais dans la dernière scène du livre, en fait, le personnage jette la pièce directement dans la rivière. Et en fait, c'était une manière de dire, bah voilà, ça y est, j'ai terminé le livre et maintenant, c'est entre les mains des dieux.
C'est so exciting. I've never been able to talk about this before. It's really cool.
Mais c'est amusant en plus parce que ce geste, il est très symbolique de jeter... de jeter la pièce dans l'eau. C'est ce qu'on fait quand on fait un vœu.
Yes, absolutely. And my wish, of course, was to become a full-time writer. And lo and behold, it took a while, but it eventually happened. So, thanks to Gardens of the Moon.
Bon, voilà, ça m'a pris un certain temps. En fait, l'objectif, c'était de devenir un écrivain à plein temps. Et au final, bah, voilà, mon vœu s'est réalisé, et c'est grâce au Jardin de la Lune.
And thanks to all you readers as well.
Merci à tous les lecteurs.
Ce que vous venez de dire, moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans ce premier tome, c'est que j'ai eu la sensation que vous passiez en revue pratiquement tous les archétypes extrêmement classiques de la fantasy pour ensuite les démonter et en proposer une version qui soit vraiment la vôtre. Alors, je ne préjuge pas, je n'ai pas lu la suite, hein, je vous le dis, donc je ne préjuge pas de ce qui va venir. Mais voilà, c'était vraiment... Votre volonté d'emblée de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière.
To kick the tropes. Yes?
Mm-hmm. Yes.
Oui.
C'est vrai, il ne faut pas poser des questions ouvertes. ça va probablement un peu surprendre vos lecteurs, justement, de découvrir... comme vous martyrisez, modelez un peu ces archétypes.
Well, I hope it's a surprise. You have to realize that writers are horrible, malicious, manipulative people, right? We're basically messing with your heads. That's our job, is to mess with your heads. And so we set up the expectations and... hopefully, if we're self-conscious enough or self-aware enough and mindful enough, we then just pull the rug out from under you and laugh maniacally in our rooms.
J'espère bien en fait que ça va les choquer un petit peu les lecteurs. En fait, vous le savez pas, mais les auteurs, on est des gens très vicieux, très malicieux. C'est-à-dire qu'en fait, on met un petit peu le boxon dans vos têtes. Et puis une fois que vous commencez un petit peu à comprendre ce qui se passe autour de vous et que vous avez suffisamment le sens de ce qu'il en est, en fait, juste à ce moment-là, on tire le tapis sous vos pieds et on rigole avec un rire de sadique.
Le rire de Sadik, il va pouvoir le refaire parce qu'il va quand même falloir qu'on attende encore quelques mois avant de pouvoir lire la suite, ce qui est extrêmement frustrant parce que, comme d'habitude avec les cycles, on aimerait pouvoir poursuivre l'aventure et essayer d'en savoir un petit peu plus. Juste une dernière question à Steven Erickson. Vous avez évoqué au tout début de cet entretien votre formation professionnelle. Qu'est-ce qu'elle vous apporte en tant que constructeur de monde?
Est-ce que ça vous... Yes. Well, both myself and Ian S. Lamont were archaeologists. In fact, we met on a dig and spent quite a number of digs together. And so I guess the archaeology is all about looking at a surface and trying to imagine what lies underneath, and then thinking of that in the context of moving back in time. That's what archaeologists do, is we get onto a landscape and we de-evolve it, in a sense, peel it back. And then we look for, I guess, a kind of commonality of the human condition. So we ask ourselves, well, where would we want to camp? Where would I want to live? Where would I, you know, where would I place myself in this ancient environment? And we grab a shovel and we walk over and we dig a hole. And usually, if you've read the landscape correctly, you find artifacts. So in a way, somebody once described the Malazan Book of the Fallen as an archaeological dig. And that you are moving through stratigraphy as you get through the series. And more is revealed of the underlying structure, the geological structure of the world and its themes.
Oui, moi-même ainsi que Yann, si elle se demande, en fait, on est tous les deux archéologues à la base et on a fait beaucoup de fouilles ensemble. Et je suppose que l'archéologie, en fait, ça revient à regarder une surface et imaginer ce qu'il y a en dessous, mais d'un certain point de vue, c'est-à-dire en remontant le temps, en la faisant déévoluer, si on peut dire les choses comme ça. Et ce qu'on apprend à travers ça, c'est tout ce qu'il y a de commun entre les êtres humains dans l'humanité. Quand on regarde ce paysage, on se demande voilà, où est-ce qu'on devrait se mettre, où est-ce qu'on devrait camper, commencer des fouilles, etc. Et une fois qu'on s'est décidé, on sort la pelle, on commence à creuser un trou. Et normalement, si vous avez à peu près bien fait ce travail de lecture du paysage, en général, vous devriez trouver des artefacts. En fait, certains compare le monde malaséen à une fouille archéologique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on progresse dans les livres, dans l'univers, eh bien en fait on passe par plusieurs strates et plus on avance, plus on descend à travers ces strates et on découvre ce monde, ses origines, etc.
And so we're with this series and Laha editions is that there will be a book coming out every 6 months. They bought the entire series. They have translations already up through book 5. So my hope is you'll all join me on the excavation.
Et donc avec cette série, en fait, le but c'est de sortir un livre tous les 6 mois. Ils ont déjà acheté, les éditions Léa ont déjà acheté donc les droits sur tous les livres. Et ils ont déjà les traductions jusqu'au livre 5. Et donc mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est que vous faisiez partie de l'équipe d'excavation avec moi.
Et j'en profite pour saluer Manuel Chastelière qui est le traducteur de ce premier volet et qui a fait un sacré travail pour... vous permettre de découvrir ce cycle.
J'espère que Steven Erikson ne va pas me quitter fâché après cet entretien, comme ça avait pu être le cas sur la table ronde précédente qu'il évoquait tout à l'heure. Bon, en tout cas, moi, je vais vous remercier énormément de votre gentillesse, de votre disponibilité. Ça a été une grande chance et un grand honneur pour les Imaginales de vous recevoir à l'occasion de cet événement qui était la publication du premier volet du livre des martyrs, puisqu'on l'a, je crois qu'on ne l'a même pas dit, mais c'est le nom de ce cycle dans cette version française. Et j'espère qu'on a essayé, sans trop en dévoiler, de vous donner envie de découvrir cet univers et de lire ce premier tome, et puis évidemment ceux qui arriveront au fur et à mesure. Vraiment un grand merci, Steven Erikson.
Well, thank you for the invitation and thank you all for coming here today. Thank you.
Et merci à Romain pour la traduction.